Romains 12, verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va parler un petit peu plus tard de ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ici, on commence avec cet appel aux chrétiens de Rome. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans la vie chrétienne, il y a une grande décision à prendre, une décision. C'est celle de remettre notre vie à Dieu, de céder le contrôle de notre vie au Seigneur Jésus, en voyant en lui le Fils de Dieu, celui qui est entièrement suffisant pour nous donner la vie éternelle. Et si vous êtes chrétien aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait ce choix. Mais après, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup d'autres petites décisions, petits choix qu'il faut faire, qui consistent à ne pas nous conformer au monde, ne pas nous conformer à la façon de penser des autres, parce que sinon, nous risquons d'être formatés, influencés par le monde actuel. Comment c'est possible ? Ben, c'est possible par ce que nous lisons, que ce soit des livres, des journaux, des articles, par ce que nous écoutons, la radio dans la voiture, ou un chant populaire, ou ce que les collègues racontent, ou ce que nous regardons, les séries, les posts sur Instagram, etc. Ça va très facilement nous influencer. Nous sommes influencés d'abord notre façon de penser, notre façon de voir le monde, nos aspirations. Et nos amis non-croyants nous influencent, il faut l'avouer. Ou les personnes célèbres que nous suivons, c'est ça le monde actuel, n'est-ce pas? Alors nous avons besoin d'être transformés par un renouvellement constant de notre intelligence. Apprendre à penser différemment, reprogrammer nos pensées, nos attitudes. Pour apprendre à ne pas nous conformer à notre monde. Alors, ce qui est un défi pour les chrétiens de Rome au 1er siècle, et l'est aussi pour les chrétiens d'aujourd'hui, l'était pour le peuple de Josué à son époque. Nous allons lire aujourd'hui ce qui s'est passé quand les choses allaient bien, quand ils étaient installés dans le pays. On reprend le livre de Josué et l'avertissement que Josué va leur donner à ce moment de leur histoire. Nous sautons à la fin du livre, et au chapitre 23, Josué 23. Entre-temps, depuis la semaine passée, en quelque sorte, depuis le chapitre 9, la conquête de la terre promise a avancé, a continué. Caleb, l'ami fidèle de Josué, qui avait été un de ses espions fidèles au départ, il avait hérité de la ville d'Hébron. Il avait dit, je vais prendre cette ville, Hébron, à l'âge de 85 ans. Et les autres territoires ont été distribués aux tribus d'Israël, et les tribus de Ruben, de Gad et de Manassé sont rentrées de l'autre côté de la rivière, à l'est, pour retrouver leur famille, leur bétail et leur ville. Donc, tout le monde est installé, différentes tribus sont installées. On a fait une étude biblique sur la terre promise. On ne va pas voir tous ces chapitres, mais vous pouvez les lire à la maison. Mais écoutez alors maintenant comment Josué parle lorsqu'il rassemble les leaders d'Israël, les représentants du peuple des tribus, 12 tribus. Josué est âgé. Et il est préoccupé par l'avenir de son peuple. Et il veut justement que le peuple soit fidèle à l'Éternel Dieu. Alors nous lisons Josué 23. L'Éternel avait depuis longtemps donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, il était d'un âge avancé. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis d'un âge avancé. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, par tirage au sort, je vous ai donné en héritage pour vos tribus les nations qui restent et toutes celles que j'ai exterminées à partir du Jourdain et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui les détruira et les chassera devant vous. Vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu et ne l'employez pas pour prêter serment. Ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu vous résister. Un seul parmi vous en poursuivait mille, parce que l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vous-même, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns aux autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront au contraire un filet et un piège pour vous, un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et de même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même, il accomplira toutes les paroles mauvaises contre vous jusqu'à ce qu'il vous ait détruit et fait disparaître de ce bon terrain qu'il vous a donné. Si vous violez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous ne tarderez pas à disparaître du bon pays qu'il vous a donné. Certains aspects, je ne vais pas les répéter aujourd'hui. Le Seigneur qui combat pour son peuple et la menace de périr, je crois à cela, j'ai prêché cela il y a 2 semaines, on ne va pas refaire les prédications d'avant. Mais on va plutôt se concentrer sur 2 appels qui se trouvent dans ce chapitre et une réalité. 2 appels et une réalité. Premier appel, ne vous conformez pas au monde. Josué fait le point. Ils sont dans la terre promise. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait de toutes les nations devant vous. Josué les a conduits jusque-là, mais il ne sera pas là après. Et donc, verset 6, « Appliquez-vous avec force à respecter, à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. » Il y a un rappel intéressant là, on entend ce verset, qu'il est en train d'appeler les leaders, les responsables à suivre cela. Il y a un rappel de ce qu'on a vu au chapitre 1, au verset 7. Vous pouvez comparer ces 2 versets. En 1:7, Dieu avait dit à Josué au début, juste à Josué, « Fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. » Vous voyez le parallèle là avec le verset qu'on vient de lire, ici 23, verset 6. « Appliquez-vous avec force à respecter, à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. » Il faut être fort, il faut être attentif, il faut être obéissant à la loi, et il faut le faire sans détour, ni à droite ni à gauche. Pas de déviation comme on aime en avoir en Belgique sur nos routes, n'est-ce pas? Il est important de souligner, quand j'ai prêché sur Josué, qui devait être obéissant à la parole de Dieu, que Jésus, le nouveau Josué, a été fidèle à la parole de Dieu. Il a obéi pleinement à la volonté de Dieu. Mais maintenant, ce n'est pas un appel pour Josué. C'est un appel pour les autres membres du peuple, qui doivent aussi être fidèles à la parole de Dieu. Et donc, nous devons prendre cet appel au sérieux pour nous. Alors, cette idée de ne pas tourner à droite ni à gauche signifie ne pas ajouter à la Bible et ne pas se défaire de certaines vérités bibliques. Nous avons besoin d'entendre la Bible telle qu'elle est, annoncée avec fidélité pour ne pas commencer à croire n'importe quoi, ne pas commencer à croire ce que les autres nous racontent autour de nous, ne pas nous détourner de la parole de Dieu. Qu'elle transforme nos pensées, nos attitudes, qu'elle renouvelle cela. Et c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Ça ne se passe pas simplement par l'esprit, mais par l'esprit qui utilise la parole lorsque nous la méditons, lorsque nous la lisons, lorsque nous l'écoutons. Et ça requiert une lecture intelligente et informée. On va juste passer un peu de temps là-dessus, sur cette idée de ne pas dévier à droite ou à gauche. D'abord, il ne faut rien enlever de la Bible. Il y a une classe de chrétiens qui lisent la Bible de manière simpliste. Peut-être que tu es dans ce groupe. Ils prennent un verset qui parle de Josué et ils l'appliquent directement à eux-mêmes. Ou un verset qui parle à Moïse ou à Abraham, ils disent « ça c'est pour moi ». Il ne faut pas la différence entre un personnage biblique et eux-mêmes. Il ne faut pas la différence entre l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, et la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, ils pensent que s'ils sont obéissants, s'ils sont fidèles, ils auront la santé, le succès, la vie tranquille qu'ils veulent, en se basant sur certaines promesses de l'ancienne alliance. Alors oui, il y a des versets dans ce sens, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Mais même dans l'Ancien Testament, si on lit son entièreté, on voit que c'est plus compliqué que ça, c'est plus nuancé que cela. Lisez le livre de Job, par exemple, ou le livre de l'Ecclésiaste, qui équilibre un peu cette idée que les bons vont bien et les mauvais vont mal. Et certainement, après la venue de Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, il y a des chrétiens fidèles et saints et dévoués qui néanmoins ont une vie difficile, ils ont des épreuves. C'est ça la vision complète de la Bible. Et nous devons écouter tout le conseil de Dieu et pas juste choisir les versets que nous aimons parce que ça nous fait du bien. Ce serait trop réducteur, on serait en train d'enlever les aspects qui sont pourtant dans la Bible. Alors si nous croyons à la Bible, nous n'allons pas réduire tout le conseil de Dieu à un petit livre magique pour moi, juste pour nous donner quelques conseils pour ma journée. Nous allons plutôt regarder par la Bible, découvrir le Dieu qui l'a inspiré et savoir que le Dieu de Josué est le même Dieu que nous savons aujourd'hui, même s'il nous traite différemment. Nous sommes dans une autre alliance que l'alliance de l'Ancien Testament de Moïse. Mais deuxièmement, il ne faut rien ajouter à la Bible. C'est l'autre tendance, et peut-être que si nous sommes sérieux par rapport à la Bible et par rapport à Dieu, nous avons tendance à ajouter des choses à la Bible. Ça peut être surprenant, mais c'est vrai. Nous risquons de faire dire la Bible plus que ce qu'elle dit. On imposera des exigences culturelles au-delà de ce que la Bible enseigne. Ah, il faut s'habiller d'une certaine manière, ou il faut se lever à telle heure. Où il faut participer à tel nombre d'activités dans l'Église. Ah bon ? Et ça se trouve où dans la Bible ? Ah non, 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 mais il faut faire ça. Et on est en train de construire sur la Bible avec des règles humaines, des impositions qui sont personnelles. Alors si tu veux te lever tôt ou t'habiller d'une certaine manière, c'est ton choix, bien entendu. Ça peut être un bon exemple. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux imposer aux autres si la Bible ne le dit pas. Toujours revérifier. Est-ce que la Bible le dit vraiment ? Mais mettez en pratique tout ce que la Bible dit. Ça, c'est un principe qui est bien sûr pour nous aussi. Si la Bible vous dit de le faire, si tout le conseil de Dieu avec le Nouveau Testament nous dit de le faire, on veut obéir à Dieu. Josué, en parlant avec son peuple, donc les appelle à écouter la parole de Dieu. Si Dieu a parlé, il ne faut pas écouter les autres voix, les idées humaines de leur société. Mais il ne faut pas aussi se tourner vers les idoles, les faux dieux qui sont adorés à leur époque. Et Josué évoque le danger de l'idolâtrie. Il appelle les croyants, ils n'étaient pas encore chrétiens, n'est-ce pas, à l'époque, à ne pas se conformer à la société idolâtre. Verset 7. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu et ne l'employez pas pour prêter serment. Ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Tout cela peut paraître ridicule. On peut se dire n'importe quoi, créer une statue, s'agenouiller devant, prêter serment par un Dieu de fertilité, c'est du n'importe quoi, c'est de l'antiquité tout ça. Et les dieux du passé nous paraissent ridicules. Mais à l'époque, ils étaient courants. À l'époque, ils avaient un certain respect. Les gens adoraient cela. Ils faisaient partie de la culture environnante, depuis un certain moment aussi. Et donc, ils pourraient penser que peut-être qu'il y avait du succès avec ces faux dieux. Et nous, ne sommes-nous pas attirés par d'autres dieux, les dieux contemporains, les dieux d'aujourd'hui ? L'argent, par exemple. Lors de notre réunion de prière, ce verset a été lu en Luc 16, verset 13, où Jésus dit « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » C'est un défi pour nous de ne pas simplement nous tourner vers ce que les autres adorent, servir l'argent. Quand nous gardons l'argent pour nous, en n'étant pas prêts de le donner aux autres et à l'œuvre de Dieu, nous servons l'argent. Quand nous acceptons quelque chose, parce que c'est pour notre gain financier, avant de penser « est-ce que je devrais prendre ce poste ?» ou « ajouter ce client ?» ou « signer un contrat ?» nous servons l'argent. Et quand nous pensons que notre bien, notre trésor, c'est notre compte d'épargne qui nous donne la sécurité, ou le pouvoir d'achat, que nous pouvons acheter tout ce que nous voulons, nous risquons d'oublier que c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. C'est Dieu qui leur a donné le pays, et c'est Dieu qui nous donne la vie et tout ce qu'elle contient, et bien sûr le vêtement et la nourriture aussi. Attachez-vous, au contraire, à Dieu. Verset 8. À l'Éternel, votre Dieu. Le vrai Dieu n'est pas l'argent ou les dieux de ce monde. Nous le connaissons, nous le savons, nous connaissons le vrai Dieu, et il est notre Dieu. Quel réconfort alors lorsque nous sommes appelés à ne pas nous conformer au monde, de savoir que nous avons déjà compris ce Dieu vivant, ce Dieu qui parle, ce Dieu qui est avec nous et qui pourvoit à nos besoins. Mais le deuxième appel que Josué va lancer est d'aimer le Seigneur votre Dieu. Aimer le Seigneur votre Dieu. C'est plus que le devoir de la louange. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? On pourrait sortir une liste, n'est-ce pas? Voilà, qu'est-ce que Dieu demande? Il faut être baptisé, il faut prier, il faut aller à l'église, il faut chanter, il faut donner. Et chaque semaine, il y a une sorte de répétition de certains devoirs que nous avons en tête et que nous disons, voilà, je dois faire encore ça. Mais vous le savez, surtout ceux qui sont en examen ou si vous avez des enfants qui sont en examen pour le moment, il y a une différence entre faire ce qu'il faut faire et faire ce qu'on a envie de faire. Vous étudiez pendant un moment, c'est lourd, il faut faire, il faut étudier. Et puis vous avez une pause, et la pause c'est un moment de plaisir, le temps passe vite. Pourquoi ? Parce que vous faites ce que vous voulez faire pendant la pause. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Si vous devez lire la Bible, bon, je dois lire la Bible, ça peut être lourd. Mais si vous avez envie de lire la Bible, ce n'est pas une corvée. Vous dites, ah, chouette, je peux prendre du temps à écouter Dieu, je peux lire la Bible. C'est tout à fait autre chose, n'est-ce pas ? Cette autre attitude. Mais en fait, ça revient à quoi ? Ça revient à si on aime Dieu ou pas. Verset 11. Veillez donc attentivement sur vous-même, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Aime le Seigneur. C'est une des phrases les plus importantes de la Bible. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, c'est aussi très très important. C'est comme ça qu'on est sauvé. Mais aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça c'est la vie, n'est-ce pas ? Aimons-le plus que toute autre chose, plus que notre famille, plus que notre carrière, plus que notre argent, plus que notre succès, plus que notre santé, aimons-le. Et si nous aimons Dieu comme ça, nous ne serons pas tentés d'accumuler des choses, nous n'allons pas chercher dans notre vie à plaire à une personne par-dessus tout, parce qu'on va chercher à plaire à Dieu, parce qu'on aime Dieu. Et nous chercherons d'abord son plaisir. Notre cœur ne sera pas partagé quand il est tout entier au Seigneur. Au verset 8 qu'on a lu tout à l'heure, il le dit dans, avec un autre mot, « Attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu. » J'ai lu ça et ça m'a fait penser à un verbe en Genèse. « L'homme s'attachera à sa femme, dit Genèse. J'ai vérifié, il s'agit bien du même mot. Josué, là, utilise un mot de Moïse, que Moïse a écrit quand il a écrit la Genèse. Attachez-vous, comme dans une alliance, l'alliance du mariage. Mais attachez-vous au Dieu fidèle. Il va utiliser le même mot au verset 12, dans un avertissement. Verset 12, « Si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, il y a un danger là, il y avait les Gabaonites, n'est-ce pas? Ils restaient là. Mais il y avait aussi d'autres villes, d'autres parties du pays où il y avait encore des gens locaux qui vivaient encore là, et peut-être que leurs femmes étaient belles et que leurs hommes étaient charmants. Parce que non seulement il y aurait là un attachement, verset 12, mais il dit, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous mélangez les uns aux autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. » Attention alors à ne pas vous marier avec n'importe qui. Si vous n'êtes pas encore marié, si vous n'êtes plus marié, attention, c'est une grande décision qui va influencer votre vie. Alors je sais que c'est pénible de ne pas être marié quand on veut l'être, il y a certains qui sont heureux dans leur célibat, mais quand tu veux être marié, et que c'est difficile de trouver quelqu'un, un homme chrétien, je parle particulièrement aux femmes chrétiennes parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans les églises, ça peut être dur, je comprends ça. Et alors tu vas peut-être te dire, mais est-ce que ça pourrait pas marcher avec un de mes collègues, ou un de mes amis de jeunesse, ou un autre homme? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu tes critères, ne pas cocher la case chrétien pour avoir multiplication de chances? Multiplier un peu tes chances et avoir plus d'occasions de trouver quelqu'un. Eh bien, à vous, je partage que le chemin qu'on entreprend si on se marie avec un non-chrétien, ça peut être un mariage fidèle, un mariage réussi en quelque sorte, mais c'est vraiment aussi un chemin qui peut être malheureux. Alors je sais que les mariages chrétiens ne sont pas toujours bien réussis, mais honnêtement, au moins ils ont les ressources. Les ressources pour que chaque membre du couple puisse compter sur Dieu pour s'améliorer. Par contre, si tu vas épouser quelqu'un qui ne veut pas aimer ton Dieu, tu vas vraiment rendre ta vie difficile. Le commandement est là. C'est un avertissement pour eux, mais aussi pour nous. Dans leur cas, verset 13 précise que s'ils se mélangent aux personnes qui sont sur le chemin de destruction, Dieu ne va pas les détruire. Il ne va pas les chasser. Elles vont rester là et elles vont être quoi? Un piège pour vous. Vous allez disparaître. Je pense que ce serait profitable de demander à n'importe quel chrétien qui est là depuis quelques années, peut-être 40 ans ou plus, qui a vu la vie et la tournure que prend la vie. Demandez-leur, est-ce que vous connaissez des gens qui étaient jeunes et croyants ou qui étaient à l'église et puis ont épousé une non-chrétienne ou un non-chrétien? Est-ce que vous les avez vus partir de l'église et partir de la foi? Et je pense que tout le monde aura des exemples en tête. En revanche, un couple chrétien de notre assemblée nous a dit que Dieu est au centre de leur couple, qu'il les unit, qu'il est aussi leur raison d'être. Alors on peut être admiratif devant ce type de couple. Quand on aime le Seigneur tous les deux, alors on trouve par son esprit, par sa grâce, les ressources pour se pardonner, pour s'aimer, pour rester fidèle, pour prendre soin de notre épouse, notre époux. Alors prenons ces appels au sérieux. Mais souvenons-nous aussi, quand il y a ces avertissements, que le Seigneur appelle qu'il est bon. C'est une bonne terre. Vous avez vu le nombre de fois où il dit « c'est une bonne terre ». C'est pour rappeler la bonté de Dieu qu'il est en train de pourvoir pour eux de bonnes choses. Et nous revenons à Romains 12, par lequel nous avons commencé la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pas pénible, désagréable et mauvais. Dieu n'est pas là pour nuire à notre vie, pour nous embêter. Non, il veut notre bien. Alors en réfléchissant à cela, c'est vrai que Dieu ne nous donne pas nécessairement tout ce dont nous avions rêvé dans notre enfance. Sinon, je serais actuellement à l'Euro en train de représenter mon pays comme gardien de but. C'était ça que je rêvais quand j'étais enfant. Mais non, Dieu nous donne quand même de bonnes choses. Et Dieu nous évite bien des catastrophes. Il veut notre bien, il sait ce qu'il nous faut. Notre bonheur est en lui. Alors si nous saisissions la bonté de Dieu, je pense qu'il faudrait méditer cela. Je suis reconnaissant parce que Léon nous a conduits sur ce chemin-là déjà ce matin. Mais méditer souvent, et j'en ai besoin aussi, de méditer la bonté de Dieu à nouveau. De dire qu'est-ce qu'il est bon finalement notre Dieu. Parce que ça va être beaucoup plus facile de résister à la tentation. Si on comprend que ce n'est pas du côté de la tentation et du péché qu'est le bien, mais du côté de Dieu, pourquoi s'en éloigner? Pourquoi abandonner celui qui est si bon? Et ça nous permet aussi de tenir ferme dans notre foi, parce que nous allons mettre de la distance là où nous risquons d'être influencés. Alors il y a deux appels, mais il y a aussi une réalité, c'est avec elle que nous allons voir le dernier verset. Verset 14 et suivant. La réalité, c'est quoi? Les promesses de Dieu n'échouent pas. Les promesses de Dieu n'échouent pas. Elles se réalisent. Elles se sont réalisées à l'époque de Josué. Souvenez-vous, Moïse partait avec ce désir d'amener le peuple dans la terre promise. Josué y croyait, même lorsqu'il avait été espion la première fois. Et maintenant, il avait vu ces choses s'accomplir. Ça devait être un moment fort pour le peuple d'Israël, les 12 tribus, de voir ce que Dieu était en train d'accomplir. Et il y a un accent là-dessus. Verset 14. « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Les menaces aussi vont s'accomplir, verset 15. Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il promet, il fait ce qu'il dit. D'ailleurs, une façon de lire le reste de l'histoire de l'Ancien Testament à partir de ce stade est de le voir simplement comme l'accomplissement des promesses de Dieu dans ce chapitre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'installer, ils vont prendre possession du pays, ils vont se détourner de Dieu. Un de leurs rois, Salomon, va se marier avec des femmes idolâtres qui servent d'autres dieux, et ça va détourner son cœur, il va s'attacher, non seulement à ces femmes, mais à leur dieu. Et finalement, tout le peuple va se faire expulser du nord et du sud, expulser de la terre, la bonne terre que Dieu leur avait donnée. Les événements de l'histoire des siècles après Josué, vous savez, ce ne sont pas des revers ou des coïncidences et des surprises, c'est l'accomplissement de ce qu'il y a dans ce chapitre. Les accomplissements de la parole de Dieu, parce que ses promesses n'échouent pas. Mais que se passe-t-il après? Les promesses de Dieu sont toujours valables, et les promesses de Dieu sont oui en Jésus. Y aura-t-il quelqu'un qui pourra écraser le serpent? Oui, Jésus. Y aura-t-il un fils d'Abraham par lequel toutes les nations de la terre seront bénies? Oui, Jésus. Y aura-t-il un prophète, un berger comme Moïse qui pourra parler de la part de Dieu? Oui, en Jésus. Y aura-t-il un roi comme David qui pourra régner sur son peuple et sur les nations? Oui, Jésus. Y aura-t-il un prêtre de l'ordre de Melchizédek? Oui, Jésus. Y aura-t-il un serviteur qui portera le poids de nos fautes, qui prendra sur lui la colère de Dieu pour nous réconcilier pour toujours avec lui? Oui, Jésus, le serviteur souffrant. Et donc la parole du verset 14 est répétée en quelque sorte. Quand Jésus, le nouveau Josué, va naître, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, dit à Marie que son enfant sera appelé fils de Dieu. Et puis il dit, car aucune parole avec Dieu est impossible. C'est littéralement ce qu'il dit en Luc 1, verset 37. Rien de ce que Dieu a dit ne manquera de se réaliser. Vous voyez le parallèle avec le verset 14, c'est la même idée avec d'autres mots. parole de Dieu, les promesses de Dieu, tout ce que Dieu dit, ce ne sera pas impossible, ça va se réaliser. Quand Dieu annonce quelque chose, il parle et la chose arrive, il commande et elle existe. Alors si aujourd'hui vous regardez à l'avenir avec incertitude, par rapport à la réalisation de ce que Dieu a dit, la venue de Christ, le jugement à venir, la gloire à venir, l'éternité avec lui, est-ce que ça va vraiment se passer? Oui, sachant qu'il va le faire parce qu'il l'a promis. Et si vous regardez avec crainte, parce que vous ne savez pas comment vous allez persévérer jusque-là en attendant le retour de Jésus, rappelez-vous qu'il a promis de vous garder jusqu'à la fin. Il va vous garder. Alors soyons confiants et rassurés, pas en nous, mais en lui, et en sa fidélité, et en ses promesses. Mais finalement, j'espère avoir montré que le péché est vraiment ridicule. Pourquoi se conformer au monde et à ses demi-vérités quand nous avons un Dieu qui nous dit la vérité? Pourquoi courir après des faux dieux qui ne peuvent pas nous sauver quand nous avons le vrai Dieu qui peut nous sauver et qui est notre Dieu? Il est notre Dieu, il est de notre côté. Aimer Dieu, c'est saisir qu'il nous aime. Et alors nous rendons compte que nous ne devons pas courir après les autres choses, après de l'argent ou après un autre amour que l'amour divin qui est permanent. Et surtout ne pas courir après quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Et surtout, si nous savons que Dieu est puissant, qu'est-ce que c'est ridicule d'avoir peur pour l'avenir? Quand nous pensons que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est notre Dieu, pourquoi est-ce que nous refuserions de nous soumettre à Jésus pour le suivre? Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Prions. Oui Seigneur, ta bonté et ta fidélité sont grandes. Nous reconnaissons cela. Mais nous avons besoin d'être renouvelés dans notre foi, notre confiance, notre façon de penser pour voir les choses de manière juste. Qui tu es vraiment? Seigneur, nous prions que nous puissions souvent écouter ta parole pour ne pas nous en détourner ni à droite ni à gauche. Que nous puissions être fortifiés contre les tentations de ce monde qui veulent nous faire conformer à leur façon de vivre, leur façon de penser. Et que nous puissions, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, parce que tu es notre Dieu qui veut notre bien et qui nous accompagne dans les défis de chaque jour. Tu connais les situations de chacun et de chacune d'entre nous. Alors viens à notre aide, viens nous fortifier, Seigneur, en toutes choses, pour la gloire de Jésus. Amen.